Voilà, déjà, c'est...
qui pourrait être intéressante pour lui, c'était son type de vie, quoi. Avec tout ce qu'il y a comme particularité. C'est un monsieur qui ne vit que avec pas mal de choses, avec des figues sèches et de l'eau. Jamais quoi, essayer d'avoir le maximum de vie à une bourgeoise. Et il s'est tout le temps contacté de ce qu'il trouvait sur le chemin, en étant tout le temps à la recherche des grandes aventures, surtout ce qui concernait l'armée française et les autorités en général, quoi, tout ce qui était colonialiste en particulier. Il a même essayé d'attaquer toute personne qui aidait les autorités, que ce soit de nationalité tunisienne ou autre que soit-elle, surtout dans la région du sud, où il avait tout ça, où il avait semé déjà la terreur, et où on l'avait surnommé le Grand. C'était son nom. Le Grand disait beaucoup de choses à tous ceux qui l'ont connu, surtout à l'époque où les troupes n'étaient pas assez efficaces entre Français et Tunisiens. Alors, une fois, il était rentré à El Hamma pour voir ses parents. Et il en a profité pour prendre un bain chaud dans les sources de El Hamma. Et alors, les autorités se sont aperçues de sa présence parmi les habitants d'El Hamma. Ils ont voulu l'arrêter. Et il s'est trouvé dans une genre de grande baignoire, quoi, en ciment, une grande citerne, et où il y avait un grand couloir, où l'eau passait par ce couloir-là et se bifurquait pour aller à l'irrigation dans certaines. Petit jardin d'à côté. Alors, et lui, il s'est réfugié dans une voûte, c'est une voûte. Il s'est réfugié dedans pour pouvoir les autres passer, et comme ça, il ne pourrait plus le prendre. Alors, ils se sont aperçus qu'il était dans la voûte, ils ont été obstrués la sortie de l'eau, ce qui fait l'eau a monté, et il s'est trouvé à un certain moment gêné par une respiration. Et c'est comme ça qu'il a crié, quoi. Il a défoncé l'eau, l'obstacle qui était à l'eau. Il a continué son chemin en passant par-dessous l'eau et à sortir un peu plus loin que les autres, alors que les autres attendaient que lui ressorte. Il croyait qu'il était mort, que lui était déjà loin, et il a pris la fuite en prenant des chemins tortueux. Et se retrouvant chez lui, il avait pris son cheval, il est reparti, sans que personne d'ailleurs ne s'en aperçoive. Seulement après, quand ils se sont aperçus, c'était déjà trop tard, il avait déjà gagné les montagnes et par là arrivé à Cheju. Et passer par la tribu des nomades de Dissa, qui elle facilitait sa fuite vers la région du sud, comme Ngardan, Matmouta, tout ça. Alors ça, c'est une chose qui était plus ou moins typique à lui. Et alors, sur le chemin, il a facilité. Enfin, il a eu l'aventure de trouver des copains, enfin des copains, des types de chez lui qui connaissaient bien. Et qui était sept, armé jusqu'aux dents, comme on dit, mais lui, il était seul, il n'avait même pas de fusil. Alors, de la peur, quand ils l'ont vu seulement, ils étaient dans une vallée, il était en haut de la vallée, il leur a crié jetez vos armes, sinon je fais un massacre. Alors, du coup, ils n'ont pas réagi, ils ont réagi que c'était lui, et ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas vu qu'il n'avait pas d'armes et tout ça, et ils ont jeté leurs armes. Et alors, il les a même pas pris, enfin, il est descendu, il les a rejoints, il était très content de se retrouver, il les a même pas tués, il a dit, bon, écoutez, j'ai faim, je viens de quitter la masse subitement, où les autorités françaises me cherchent, et j'ai pas de quoi manger, si vous avez quelque chose, donnez-le-moi. Bon, ils étaient tous juste gentils, ils lui ont donné tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils possédaient comme nourriture, malgré qu'eux, ils savaient qu'ils n'avaient pas, ils n'étaient pas encore arrivés, que ça pouvait leur coûter cher d'avoir donné toute leur nourriture à Dagbaji. Seulement, il s'était dit une chose, c'est que, ou alors ils lui donnaient leur nourriture, ou bien ils les tuaient. C'est une chose qui était apparente à leur vue. Il a même pris un fusil de chez eux, ils sont repartis. Seulement, il y en avait un parmi eux qui était, je ne sais pas comment il s'appelait, je sais pas, je ne connais pas son nom exactement, qui lui a été se vanter auprès des Tunisiens, disant que tiens, il a eu Dagbaji, lui. Et qu'il l'a pas tué, il a eu peur d'eux. Le bruit a couru, Dagbaji s'était juré de le tuer, ce type-là, parce que il avait menti. C'est pas parce qu'il avait raconté que Dagbaji a eu peur, parce qu'un homme peut quelquefois avoir peur dans certaines conditions. Seulement, il a pas dit la vérité, parce que Dagbaji n'avait pas du tout peur. Seulement, Il avait raconté cette blague comme ça, pour dire que tiens, c'est quelqu'un, celui-là, il avait eu Pierre de la Belgique, l'homme qu'on vénérait dans le sud, et qui s'était pris pour un second pour Guibert dans le nord. Et c'est qu'il a eu d'ailleurs, il a eu raison, quoi. Il a tué à un moment à Elama, en rentrant à Elama. Parce qu'il rentrait le soir, tout le temps le soir, et il en ressortait le matin, il passait une seulement une nuit, et qu'il faisait tout pour que son apparition à Elama se passe inaperçue, surtout par les autorités, ou alors par les mouchards. Là, il y en avait un peu mal dans le temps, des Tunisiens et autres, quoi. Même des Nord-Africains en général, et des Tripolitains, des types de Libye, qui vivaient en Tunisie, qui eux faisaient tout pour essayer de dénoncer Dagbaji et avoir le maximum de fruits quoi, offerts par la France dans le temps. Et je sais pas, c'est tout. Avec, comme habitude, c'est une personne qui n'a jamais eu horreur de, enfin, horreur de, n'a jamais eu peur de marcher. La personne qui vous fait 200 km par jour à pied sans se fatiguer, sans dire quoi que ce soit. Il est reparti le lendemain, il faisait le voyage Tunis, enfin Tunis, il faisait le voyage de Gabès à Médine, ce qu'il fait dans les 140 à 160 km par jour. Et le soir, il revenait. Il ne prenait jamais le ni voiture, ni aucun mode de transport, même à cheval. Moi, il était tout le temps de cheval. Il avait d'ailleurs une grotte qui était surnommée la grotte d'Arbaji qui se trouvait à Chabet Grouz, quelque chose dans le patelin, un petit patelin dans la région de Benguerdane, qui était en plein désert, où d'ailleurs c'était une taverne de lions, comme on appelle ça, où personne n'osait en approcher, même ses copains, parce qu'ils étaient tous. Il y avait chacun sa grotte personnelle, et où il y avait tous les butins, mais il y avait une grotte où tout le monde cachait tout ce qu'ils ont comme armes, et comme tout, quoi. Ils savaient se retrouver à cette telle heure-là, même s'il y avait des difficultés pour en chemin ou quelque chose comme ça. À un certain moment, il fallait se sauver. Et chacun se sauve d'un côté pour essayer de se retrouver après à tel endroit. Il y avait tellement un genre de local fixe où tout le monde se trouvait à la même place, à telle heure, à telle heure. C'est convenu. Même ceux qui viennent séparément, bah, ils n'ont qu'à se faire attendre. Ils attendront jusqu'à ce que le chef arrive. Et c'est comme seulement le chef, quand il arrive, là où il y a la décision à prendre, c'est par lui. À un certain moment, ils étaient en désaccord parce qu'il y en avait quelqu'un qui disait, ah, mais moi je peux pas. Pourquoi c'est toujours lui qui commande? Il dit, bon, on fait une chose parce que c'est le meilleur tireur que nous avons et le plus fort. Si tu veux te battre avec lui, t'as qu'à essayer. Ils se sont battus et c'était Dagbaji qui avait eu raison parce que ils avaient tiré en faisant une expérience de tir. Ils avaient pris une jeune fille qui avait une boucle d'oreille et ils l'ont mise à, je sais pas, à 38 mètres, je crois, ou 40, 38, 40 mètres. Et alors il dit, voilà, la fille va prendre la boucle par le doigt et tu essayes de passer la balle dans la boucle d'oreille sans blesser la fille. Alors le premier à tirer, c'était Dagbaji qui a fait ça, mais seulement le second, il a eu peur. Il dit, moi, je vais la tuer, la fille. Comme je ne veux pas tuer la fille, je ne veux pas y aller. Alors ça, c'était une de ses qualités, quoi, d'être un tireur bien. Il avait autre chose, c'est qu'il avait juré, quand il tuait quelqu'un, il lui plaçait la balle sous le front. Toute personne qui ne recevait pas la place là où il l'avait lui, il se tailladait un peu les veines. Jusqu'à un certain moment, quand on entendait ça, on criait. Il était doué d'une vue assez longue, parce que dans le temps, on utilisait les pièces de 5 sous, ici, qu'on appelait une pièce genre qui fait la monnaie de 20 francs actuels, et qui était trouée au milieu. Donc on l'a jeté à toutes les forces en plein ciel. Alors lui, il a regardé et il était obligé, enfin, il jurait qu'il attrapait au vol et il cassait la pièce en deux avec une balle de fusil. C'était ça, quoi. Sa meilleure réputation, c'était le franc qui a fait le grand tireur et le grand tueur, comme on dit, parce que il y avait pas mal d'aventures, surtout dans ce domaine-là, avec ces attaques, parce qu'une fois même, ils étaient attaqués à tout un convoi militaire qui passait par Dissa, qui rejoignait Lama. Et alors, il y avait une carrière de pierre, une carrière de cailloux, On prenait tous les... Alors lui, il était derrière un caillou. Il y en avait 14. Il y avait 14 Français, 14 soldats. Il y en avait un seul qui a échappé. Et il a eu la balle dans le dos. Enfin, il est mort, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas eu la balle au front. Et alors, Dagbaji n'était pas content de lui. Et il a cassé son fusil. Il a cassé son fusil. Seulement après, il a vu que c'était pas ça qu'il fallait parce que le type était mort, c'est tout l'essentiel. Et il a été prendre un fusil, d'ailleurs, un fusil de l'armée tunisienne, enfin de l'armée française, qu'il a gardé jusqu'à la fin de sa vie, qui était tout le temps derrière ses vêtements, parce qu'il n'avait pas de vêtements à l'européenne, mais il avait un vêtement typiquement tunisien où il avait une grande chemise qui se faisait. Genre de robe de chambre, très très grande, avec un col rond et des manches très larges. Et il avait un genre de. Une très très grande serviette qu'il enroulait sur le cou avec une frange. On appelle ça le houli.